20h31 sur Transistor, vous écoutez le journal radiophonique amplifié numéro 48 du jeudi 28 février 2019. Journal mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Quel est le programme aujourd'hui, Rémi ?
Bonsoir Mathilde. Au programme, on commencera bien sûr avec un journal qui se terminera par un billet d'ailleurs. Marie nous emmènera au Nigeria. On continuera avec ta revue de presse, Mathilde, à 20h45. Puis, pour terminer cette première demi-heure, on retrouvera Julien pour un édito économique autour des travailleurs détachés. Puis après une dernière petite actu, nous passerons à la culture, une culture qui sera d'abord scientifique. Avec des espèces éteintes, ça sera avec Maxime, puis on passera au journal de la culture de Léa et Sarah autour de la place des femmes sur la scène littéraire. Et puis après une chronique musicienne avec Benoît et Maë, ça sera électro ce soir. On terminera avec un petit détour sur les ondes courtes et un fonds de soutien à la création radiophonique.
Mais tout de suite, le journal Rémi.
Effectivement, et on commence tout de suite avec la pollution, Maë.
Le beau temps est au rendez-vous, ce mois de février qui rappelle le printemps pour le bonheur des adeptes de vitamine D. En effet, un anticyclone réchauffe la température et provoque également le phénomène météorologique dit d'inversion thermique, qui a pour conséquence de faire stagner à faible altitude les polluants et particules que nous générons, et tout particulièrement en ville où le phénomène est particulièrement problématique. Voilà donc l'origine du pic de pollution hivernale qui touche le nord de la France depuis le week-end dernier et qui a poussé la métropole de Lyon à mettre en place une circulation différenciée aujourd'hui, c'est-à-dire que seuls les véhicules munis de vignettes Crit Air sont autorisés à circuler. Pour l'occasion, TCL a fait une promo sur les tickets de transport en commun et les places de parking sont gratuites pour tous les résidents. La fin de l'anticyclone prévue pour le week-end devrait évacuer l'air malsain plus haut dans notre atmosphère et nous permettre de recommencer à polluer allègrement.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et c'est à toi, Maxime.
Oh, pardon. C'est une nouvelle et vive ou ville polémique qu'a soulevé Decathlon il y a quelques jours en annonçant mettre en vente sur le marché français pour 8 petits euros un hijab de running d'ici mi-mars, couvre-chef sportif déjà vendu au Maroc. Après tout, qui n'a jamais été embêté par ses cheveux dans les yeux lorsqu'il courait ? Une polémique vive donc, mais courte, car deux jours seulement après cette annonce, le mardi 26 février, le géant du sport Discount s'est ravisé et a renoncé à commercialiser ce produit, prétextant assurer ainsi la sécurité de leurs équipes, équipes qui ont été menacées et insultées en magasin. Cette tempête d'indignation n'est pas simplement portée par quelques poignées d'intolérants décérébrés, mais également par de nombreuses personnalités politiques, majoritairement de droite, telles que la ministre de la Santé Agnès Buzyn, le président des Républicains au Sénat Gérard Larcher, mais aussi de gauche, avec la présidente du PS à l'Assemblée nationale Valérie Rabault. Et en des termes démontrant, outre de jolis amalgames, notamment entre le port du voile et la burqa, la femme et la République, mais surtout un refus très virulent d'autrui de sa culture, de ses croyances, que trop de médias se sont empressés de relayer.
Après une semaine d'incarcération, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été libérés avant-hier. Ils avaient été interpellés après ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact l'un avec l'autre. Quelques jours plus tôt, la commission des lois du Sénat avait rendu un rapport accablant sur l'affaire Benalla, mettant entre autres en cause trois hauts responsables de l'Élysée, Patrick Strauda, Alexis Kohler et le général Lavergne. La balle est désormais dans le camp de Gérard Larcher, enjoint dans le rapport à saisir le parquet, mais le président du Sénat devra composer avec la sensibilité du groupe centriste dont il a besoin pour conserver une majorité au Sénat.
Et l'usage du flashball par les forces de l'ordre lors des manifestations hebdomadaires du mouvement des Gilets jaunes est en question. Le Conseil de l'Europe, qui regroupe les représentants des 47 États membres de l'Union européenne, a publié un rapport sur le mouvement dans lequel il condamne l'usage du LBD 40. L'arme, symbole de la militarisation de la police et des violences policières, blesse et mutile depuis des années, a pris une autre ampleur depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Le rapport condamne également les autorités judiciaires qui ont trop recours aux comparutions immédiates et dénonce les nombreuses interpellations non légitimes. Le Conseil de l'Europe désigne ces pratiques comme des entraves aux libertés d'expression et de réunion. Face à ces condamnations, les arguments pro et anti-flashball s'affrontent, les uns vantant les mérites d'une arme protégeant les forces de l'ordre, quand les autres pointent une dangerosité disproportionnée et une atteinte au droit de manifester. Face à ces arguments, il n'en reste pas moins que le nombre de blessés augmente chaque semaine et que la réponse du gouvernement français est attendue par la communauté internationale.
Et on passe à l'international avec toi, Marie.
Et oui, on s'intéresse pour commencer au conflit qui oppose depuis plusieurs jours l'Inde et le Pakistan. Alors l'escalade de tension commence lorsque l'Inde annonce avoir mené des frappes dans le nord du Pakistan, près du Cachemire, sur le plus grand camp d'entraînement du groupe islamique Jaïch-e-Mohammed, et ce en réponse à l'attentat du 14 février contre 40 paramilitaires indiens, une des attaques suicides les plus meurtrières subies par l'armée indienne au Cachemire. Le lendemain, le Pakistan affirme avoir abattu deux avions indiens et capturé un pilote, avant que l'Inde ne revendique un affrontement aérien avec le Pakistan. Dernier accident en date, 4 morts dans un échange de tirs entre militaires indiens et pakistanais près de la ligne de démarcation qui sépare la partie indienne de la partie pakistanaise du Cachemire. Tous s'accordent à dire qu'il s'agirait d'une manœuvre politique du président indien Narendra Modi, qui chercherait, à l'approche des élections générales prévues en avril, à renforcer sa rhétorique basée sur la défense de l'Inde face au Pakistan. Au cœur du conflit, le Cachemire, une région que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique, une région séparée en deux, le nord pour le Pakistan et le sud pour l'Inde. Le Pakistan est accusé de financer mouvements indépendantistes et militants qui combattent les forces de sécurité de l'Inde, et l'Inde, qui a fait du Cachemire la région la plus militarisée du monde, veut mettre fin à l'autonomie de cette région de l'Himalaya. Bref, des affrontements encore nombreux qui renvoient à une situation très complexe.
Il faut parfois décider de quitter les négociations. C'est par ces mots que Donald Trump a annoncé l'échec de sa rencontre avec Kim Jong-un tout à l'heure à Hanoï. Alors que des annonces concrètes étaient attendues 6 mois après un premier sommet à Singapour. Mais la demande du leader nord-coréen d'une levée des sanctions économiques américaines, inconcevable pour les États-Unis tant que la dénucléarisation du pays ne serait pas définitive et vérifiée, a conduit la discussion à un point de blocage. Un coup dur pour Donald Trump à 18 mois de l'élection présidentielle, peut-être une façon pour Kim Jong-un, d'accentuer la pression et de se poser en maître des horloges en attendant une prochaine étape des négociations.
Brève évocation maintenant de la situation en Algérie, où la population proteste contre la candidature pour un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et au pouvoir depuis 1999. Les Algériens ne veulent plus d'un président très peu présent, affaibli par des problèmes de santé répétés et contraint à séjourner en résidence médicalisée et à faire des contrôles médicaux fréquents à Paris et Genève. Pour le peuple en somme, il faut en finir avec Bouteflika et ouvrir la politique à d'autres personnes plus aptes à gouverner. Les manifestations qui durent depuis plus d'une semaine maintenant ont été réprimées et les journalistes voulant couvrir le mouvement ont été arrêtés hier, avant d'être relâchés il y a quelques heures. Luttant contre la censure qui leur est imposée, les médias nous permettent donc de suivre des contestations mouvementées qui montrent une volonté commune de changer les choses dans un pays excédé par l'absurdité de la situation et par l'absence d'un président trop diminué pour représenter quiconque.
Je suis ici pour dire au peuple américain ce que je sais du président Trump. Michael Cohen a tenu hier un discours à charge devant le Congrès, revenant sur les mensonges de celui qu'il décrit comme un autocrate, raciste, escroc, tricheur. L'ancien avocat personnel du président américain, ex-Hamdane, condamné à 3 ans de prison en décembre suite à des aveux de fraude fiscale, mais aussi à son rôle dans les négociations entre le candidat Trump avec Moscou et l'achat du silence de 2 maîtresses du futur président, a prolongé et confirmé ses aveux hier devant le Congrès, et à la question de savoir s'il y avait d'autres malversations encore inconnues, Michael Cohen a répondu sans hésiter oui, et un tribunal enquête sur celle-ci, affaire à suivre.
Un point maintenant sur les affaires de pédophilie dans l'Église, alors que se multiplient les révélations et les déclarations sur ce sujet extrêmement sensible. Le 17 février, le cardinal McCarrick a été le premier cardinal à être défroqué par le Vatican pour abus sexuels et plusieurs évêques ont été accusés d'avoir favorisé McCarrick tout en étant au courant de ses comportements. Plus récemment, le film « Grâce à Dieu » de François Ozon a été autorisé à sortir en salle et Frédéric Martel a publié « Sodoma » dans lequel il décrit un Vatican perverti par l'homosexualité et le pape François a ouvert le 23 février et pour 3 jours une réunion d'évêques du monde entier. Résultat, la pédophilie dénoncée comme étant, je cite, « un objet de Satan » et l'obligation pour les évêques de ne désormais plus protéger les prêtres fautifs.
Une réunion qui n'a pas empêché les révélations de se succéder. Le cardinal allemand Reinhard Marx, a admis que des documents ayant pu indiquer le nom de responsable avaient été détruits et a affirmé que l'Église ne devrait pas fonctionner avec des normes de qualité inférieures à celles de l'administration publique. Le cardinal australien George Pell, lui, numéro 3 du Vatican, a été officiellement reconnu coupable de pédophilie. Il aurait agressé deux mineurs de moins de 16 ans en 1997. Bref, les masques tombent et les choses bougent doucement. Une affaire sensible donc à suivre de près.
Et on passe aux billets d'ailleurs, toujours avec toi Marie.
Alors oui, je vous emmène aujourd'hui dans un pays étonnant. On le connaît peu, mais c'est la première économie d'Afrique et il possède un PIB supérieur à celui de l'Afrique du Sud. Il n'a pas fait les grands titres des journaux, mais vient d'élire son président. On sait que son économie repose sur le pétrole et c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, mais on sait moins que c'est aussi un centre de création artistique qui commence à déployer ce qu'on peut appeler un soft power culturel. Je parle bien sûr du colosse au pied d'argile, vous avez tous deviné, il s'agit du...
Nigeria ?
Du Nigeria, c'est bien ça.
Alors commençons par l'actualité, que s'y passe-t-il en ce moment ?
Eh bien le pays vient d'élire son président, je vous résume la situation. Le 23 février, les élections présidentielles et législatives sont reportées, officiellement pour pouvoir garantir la tenue d'élections libres, justes et crédibles. Plusieurs bureaux de vote sont brûlés, plusieurs États manquent de bulletins de vote et de matériel. Une semaine plus tard, l'élection a bien lieu et sur les 71 candidats, deux se démarquent.
Et il s'agit de...
Alors d'abord de l'actuel chef de l'État, Muhammadu Buhari, leader du Congrès des progressistes, élu en 2015 mais dont la politique a déçu et qu'on accuse d'avoir reporté le scrutin pour gagner des voix supplémentaires. Et le deuxième candidat, c'est Tatiku Abubakar, son rival, membre du Parti populaire démocratique, un parti de centre-droit. Résultat, le président sortant Buhari a été réélu avec 56% des suffrages contre 41% des voix pour Atiku Abubakar. Mais le résultat du scrutin, on commence à avoir l'habitude, a été contesté par l'opposition qui a dénoncé des anomalies dans le processus électoral.
Ça, c'était le compte-rendu version BFM TV, mais derrière ces chiffres, que peut-on comprendre ?
Eh bien, plusieurs choses sont à noter. Déjà, le taux de participation a été très faible, 33% environ, ce qui s'explique par la sensation de non-renouvellement de la classe politique et par le report des élections qui a dissuadé certains Nigérians de se déplacer une deuxième fois vers les bureaux de vote situés en ville. Ensuite, certains estiment que Buhari a davantage été élu par défaut que par souhait de la population. Pourquoi ? En partie parce qu'il est principalement apprécié dans sa région natale, le nord du pays, qui est aussi une région extrêmement peuplée. Mais aussi parce qu'Atiku Abubakar n'était pas le meilleur candidat qu'aurait pu choisir l'opposition. Sa volonté de privatiser des entreprises et de mener une politique néolibérale fait peur à une population nigériane très pauvre et son nom était même contesté en interne.
Et alors, qui est ce Mohamed Buhari ?
Eh bien, celui qu'on surnomme Papa Go Slow, en raison de ses ennuis de santé, est un ancien général de 76 ans qui a dirigé le pays pendant les dictatures militaires et suite à un coup d'État. Austère et autoritaire, il s'est notamment engagé à lutter activement contre la corruption, c'est ce qui explique en partie sa réélection. Et pour un journal burkinabé, Papa Go Slow va devoir, je cite, « mettre le turbo pour combler les lacunes de son premier mandat et tenir ses nouvelles promesses électorales qui sont nombreuses. Lutter contre la corruption et Boko Haram, créer 15 millions de nouveaux emplois, former 200 000 jeunes au métier des services et de la technologie et réhabiliter 10 000 écoles. »
Ces promesses de campagne, c'est bien joli, mais quels sont les enjeux au Nigeria ? Première économie d'Afrique, mais toujours un pays très pauvre, c'est ça ?
C'est ça. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, je vous propose de résumer la situation en trois points. Numéro 1, l'insécurité. Au nord du pays, en effet, Boko Haram multiplie les attaques dans le but d'instaurer un califat et l'armée peine à lutter contre ce groupe terroriste djihadiste, même si Buhari se vante du recul de la secte islamique durant son mandat. Numéro 2, les conflits internes, puisque dans la Middle Belt, au centre du pays donc, s'opposent depuis plusieurs années les éleveurs peuls et les agriculteurs chrétiens. Numéro 3, une économie qui ne parvient pas à éradiquer la pauvreté. Avec une croissance démographique affolante, un taux de pauvreté supérieur à celui de l'Inde qui touche 50%, et une pauvreté qui touche 50% de la population et 64% des habitants qui vivent dans des bidonvilles, le constat est indéniable. Le pétrole, la richesse du pays, ne parvient pas à booster la croissance économique. Pourquoi ? Eh bien, ce pétrole est surtout exporté au lieu d'être réinvesti dans l'économie locale et dépend de cours mondiaux chaotiques. Moralité, le pays devrait davantage exploiter ce qui est une vraie richesse, à savoir son marché intérieur.
Et le mot de la fin peut être un peu plus positif ?
Alors oui, finissons quand même sur du positif. Certes, l'élection a été reportée et oui, les résultats sont contestés et le renouvellement politique pas encore au goût du jour, mais on note quand même la présence de jeunes candidats qui ont activement mené leur campagne, une présence qui marque le début d'un renouveau politique. Le Nigeria est aussi un pôle créatif majeur, avec des films produits par ce qu'on appelle Nollywood, films qui ont été rachetés par Netflix, ou le succès de romancières comme Ngozi Adichie. Et puis malgré ses défauts, le président a des objectifs nobles et une volonté d'acier malgré ses 71 ans. Seul un esprit patient peut traire un lion. De la même manière, la lutte contre la corruption est difficile, mais pas impossible, a-t-il déclaré. Reste à voir si Papa Goslo réussira à mettre le turbo.
Merci beaucoup Marie pour ce journal.
Il giornale radiofonico de l'amplification.
Sur Transistor.
Et à 20h passées de 46 minutes, nous jetons un œil du côté de la presse. C'est avec toi, Mathilde.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Alors on la commence en partant vers les sommets aujourd'hui.
Oui, entre montée des tensions et escalade militaire, une chose est sûre, la presse continue d'entretenir et de créer le rythme passionné des événements qui secouent le monde aujourd'hui. On commence par la situation économique avec Air France KLM. Le Figaro titre « Air France KLM, le ton monte entre la France et les Pays-Bas ». Au-delà de la simple évolution de cette péripétie, Le Monde lui est plus précis lorsqu'on feuillette l'édition du jour. En tête de son article dédié au sujet, il titre « Le Monde, Air France KLM, la crise devient politique ». Les Échos, eux, rajoutent du suspense dans cette actualité pour tenir en haleine leurs lecteurs en titrant « Air France KLM, dangereuse escalade ».
Et ça monte aussi au niveau international, Mathilde.
Oui, toujours à la une du Figaro, mais en plus petit, on trouve un encadré sur, je cite, « l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan ». Alors le mot « escalade », c'est le mot que l'on retrouve le plus et à peu près unanimement dans tous les quotidiens de ce 28 février. Y compris à l'autre bout du spectre politique de la presse, dans Libération qui titre « Cachemire, escalade entre New Delhi et Islamabad ». On est un peu plus réservé dans Le Monde, où il est écrit que l'Inde et le Pakistan jaugent les dangers d'une escalade. À Mediapart, on aime aussi ce mot, mais on s'interroge quant à sa réalité avec le choix de la forme interrogative. Y a-t-il un risque d'escalade entre l'Inde et le Pakistan ?
Des unes un petit peu uniformes, on dirait.
Oui, que ce soit la une de Libération d'aujourd'hui ou de l'édition du Monde de demain, Trump est toujours là. On titre pour Le Monde « Double revers pour Trump » en référence à l'intervention de son ancien avocat et de son échec diplomatique. Libération, elle, préfère en rajouter sur les effets, avec le joli rythme ternaire qu'on a entendu tout à l'heure, titrant « Trump en arrière-plan, un raciste, un escroc, un tricheur ». Les médias ont définitivement trouvé le personnage qui pourrait jouer le méchant démoniaque et facile dans un roman. Alors on continue l'histoire, on continue de parler du grand homme aux cheveux jaunes, parce que son ancien avocat s'est permis de nous révéler ce que, en fait, tout le monde savait déjà. Mais bon, apparemment, ça vaut quand même le coup de le rappeler, puisque ce sont des paroles qui ont été déclarées lors de son audition à la Chambre des représentants. Son avocat dresse, selon les mots de Libération, un portrait à charge, confiant par exemple que Donald Trump n'avait nul désir de diriger cette nation.
Heureusement, on ne se contente pas de la une et on feuillette un petit peu plus en détail Libération aujourd'hui qui nous réserve quelques bonnes surprises.
Oui, deux articles particulièrement intéressants, une enquête d'abord et ce récit révoltant des trois hommes qui accusent l'ambassadeur en France du Vatican d'agression sexuelle et qui demandent la levée de son immunité diplomatique. Contre le discours lisse du pape lors du synode sur la protection des enfants et dénonçant le manque total d'annonces de mesures concrètes, on comprend la colère de l'interviewé qui transparaît dans cette phrase étalée en gros sur la page « Ce n'est pas la main de Satan qui m'a touché les fesses ». Le canard enchaîné, lui, a préféré en rire, comme à son habitude. Et il titre en une « Enfin une mesure concrète contre la pédophilie dans les églises, le pape supprime le denier du cul ».
Mais tu voulais nous parler d'un autre article intéressant de Libé encore ?
Oui, toujours dans Libé, un article qui vaut la peine d'être lu. Celui qui nous rappelle que Berlin refuse d'exporter des armes vers l'Arabie Saoudite, même celles fabriquées par le Royaume-Uni et la France. Si cela peut nous donner la folle envie d'apprendre l'allemand, étant donné l'inacceptable comportement de notre gouvernement à ce sujet, l'article nuancé de Libération précise que le premier fabricant d'armes du pays n'est pas pour autant empêché de contourner le blocus en produisant des munitions depuis l'Afrique du Sud.
Dans Le Monde aussi, lorsqu'on s'attarde sur la fin du journal, on y trouve des articles qui méritent le détour.
Oui, Le Monde laisse de la place dans ses pages pour une enquête sur la fuite d'un pipeline de Total dans les Yvelines, où plus de 900 mètres cubes de pétrole brut ont contaminé des dizaines d'hectares. Et ça fait du bien aussi qu'on prenne une page entière pour rappeler que les pipelines et autres technologies gérant pétrole et matières premières diverses ne sont jamais à 100% sûres, surtout quand la France, contrairement au Brésil, donne l'autorisation de forer du pétrole au large de la Guyane, parce qu'elle juge que les risques de pollution sont faibles.
Et un petit peu de littérature pour adoucir l'actualité peut-être.
Oui, pour finir, je vous invite à lire le merveilleux hommage que Virginie Despentes rend à l'écrivaine Goliarda Sapienza dans les dernières pages du Monde. Lorsque le texte sincère de l'auteur de L'Art de la Joie est décrit par la plume de Virginie Despentes, ça ne peut être que délicieux à lire.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et c'est au tour de Julien de prendre la parole pour nous parler de la Cour des comptes.
Cour des comptes qui, comme chaque année, a publié son rapport annuel. Paru le 6 février 2019, il s'agit d'un gros pavé de 4 tomes qui présente des données statistiques, des analyses économiques et des recommandations sans pour autant avoir un caractère contraignant.
Un rôle consultatif et de contrôle donc.
Exactement. La Cour des comptes a été créée pour contrôler la régularité des comptes publics, de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la sécurité sociale ainsi que des organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État ou faisant appel à la générosité du public. Elle informe le Parlement, le gouvernement et l'opinion publique sur la régularité de ses comptes.
Et alors, qu'as-tu trouvé d'intéressant dans ces pages ?
Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai décidé de vous parler des travailleurs détachés. Officiellement, 517 000 travailleurs détachés ont été employés en France en 2017. Mais ce ne sont que les chiffres officiels. Il y aurait des centaines d'autres travailleurs détachés selon la Cour des comptes, mais non déclarés. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, le travail en intérim ou encore l'agriculture représentent les secteurs où il y a le plus de travailleurs détachés.
Mais en fait, qu'est-ce que c'est un travailleur détaché ?
La directive européenne concernant le détachement des travailleurs remonte à 1996 et est censée contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne en facilitant la circulation de la main-d'œuvre. L'article 2 du texte définit le travailleur détaché comme tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement. Depuis cette directive du 16 décembre 1996, la règle communautaire prévoit pour un travailleur détaché le respect du droit du travail du pays d'accueil. En revanche, en ce qui concerne son affiliation au régime de sécurité sociale, le travailleur détaché demeure affilié au régime de l'État membre d'origine. La mission du travailleur détaché est limitée à 24 mois.
Mais pourquoi une entreprise peut-elle avoir intérêt à avoir recours à un travailleur détaché ?
Les entreprises françaises ont deux raisons principales de recourir aux travailleurs détachés. Premier cas, elles ne trouvent pas les compétences en France nécessaires à leur production. Second cas, en utilisant des travailleurs détachés, elles peuvent les rémunérer au SMIC des salariés qui en France auraient bénéficié des conventions collectives leur offrant un salaire plus élevé. Un travailleur détaché est compétitif au SMIC et c'est donc un moyen pour les entreprises de diminuer leurs coûts de production. Ces pratiques font partie de ce gloubi-boulga que les économistes désignent sous le nom pompeux. Oui, parce qu'en économie on aime bien se la péter, de dumping social. Et on aime bien aussi montrer qu'on connaît des mots en anglais. Cependant, en 2017, une réforme du travail détaché a été mise en place au sein de l'Union européenne. Les conventions collectives ont été intégrées au socle de droits auxquels les salariés peuvent bénéficier, quel que soit leur pays d'origine. Alors, si une entreprise française fait venir un technicien de Roumanie, elle ne peut pas le rémunérer au SMIC puisque cette réforme du travail détaché garantit en théorie aux travailleurs un salaire identique pour un même travail au même endroit. C'est une avancée, mais compte tenu des difficultés à contrôler la main-d'œuvre détachée, ce n'est pas une garantie contre le dumping social.
C'est si dur que ça à contrôler un travailleur détaché ?
Et plutôt oui, parce que 20 ans après les premières directives sur le sujet, la fraude au détachement est devenue un marché en Europe. Un marché florissant car il comporte peu de risques. Un chiffre pour que vous vous rendiez compte, 0,5%, c'est le taux de recouvrement des fraudes sociales liées au travail détaché. C'est-à-dire que pour 10 000 euros de fraude constatée, 500 euros sont récupérés. Il faut d'abord trouver la fraude, ce qui n'est pas simple quand l'entreprise d'intérim immatriculée en Irlande, pour les exonérations fiscales, mais ça c'est une autre histoire, mais faisant travailler des Polonais en France n'est qu'une boîte aux lettres et qu'elle pourra renaître à Chypre sous un autre nom dès qu'elle aura été inquiétée. Il faut ensuite appliquer les sanctions prévues dans les lois. Or, la Cour des comptes relève que les parquets et les tribunaux ont de grandes difficultés à poursuivre les personnes physiques et morales situées à l'étranger.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ?
Donc si vous pensez que l'Europe fiscale n'est pas parfaite, vous avez raison. Mais ce n'est peut-être rien comparé à l'Europe sociale. Il existe bien de l'optimisation sociale comme il existe de l'optimisation fiscale. Au moins, l'Europe fiscale rend obligatoire l'échange automatique d'informations financières. Les pays européens sont forcés de coopérer. Il n'en est rien pour l'Europe sociale. Alors la question est, qui comptera le temps perdu à constater des fraudes complexes ne donnant lieu à aucune poursuite ? Comme souvent avec l'Union européenne, c'est au moment où l'on pense que tout est fait qu'on se rend compte que tout est à construire. Dans tous les cas, le rapport de la Cour des comptes ne traite pas uniquement de la question des travailleurs détachés. Si jamais vous souhaitez comprendre, entre autres, pourquoi l'État est mal armé pour conserver la gestion des trains intercités, des trains de nuit, ou alors si vous êtes intéressé par la réglementation du service des urgences hospitalières, en bref, si vous êtes attiré par l'économie ou tout simplement curieux, le lien vers ce rapport sera sur Transistor.
Et une dernière actu avec toi, Rémi.
Trois tonnes, enfin mises en mouvement après 349 ans d'attente, c'est le poids de ce bloc de marbre retrouvé dans l'Aude, dans un bosquet, par les exploitants d'une carrière 3 tonnes vouée depuis toujours à se transmuter en une statue du château de Versailles et qui s'était égarée dans les chemins de traverse de l'histoire arrêtée par la fin d'un monde, le jeu de pommes le 21 janvier, l'Empire Corse, la machine à vapeur et l'autocuiseur Moulinex, le droit de vote et les armistices, le code civil et la sécu, et toutes ces marques irréfutables de la démocratie moderne qui, à l'instar du péage autoroutier et du godemiché pneumatique, sont l'apanage définitif de l'humanité enfin libre. 3 tonnes de marbre qui sont donc reparties vers Versailles sur un chariot de bois puis le long du canal du Midi, comme pour montrer le long des routes cette nostalgie discrète du temps où les livreurs Uber se poussaient sans vélo aux portes du château pour tailler 10 heures par jour la pierre des statues à la forme des rêves démesurés du monarque. 3 tonnes de marbre, il n'en fallait pas plus pour enjamber allègrement 2 siècles de république et donner raison à celles et ceux qui y voient dans les roitelets d'aujourd'hui une excroissance hypertrophiée du despotisme d'hier. Dans cette nostalgie oublieuse du faste et du grandiose, une tentation insidieuse d'une histoire presque circulaire, une spirale qui reviendrait sur ses pas promener les mêmes blocs de marbre le long des routes où vit le bas-peuple, puisque c'est ainsi que l'on appelle sa façon de mourir, seulement augmentée de technologies de pointe comme le flashball ou la Commission européenne, et de ronds-points à contourner précautionnellement jusqu'à ce que surgisse l'envie de s'y arrêter, d'y installer 3 tonnes de marbre et pourquoi pas de les tailler en guillotine.
Écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Rebonsoir Maxime, c'est maintenant l'heure de ton édito scientifique. Il est 20h59 sur Transistor.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour ce nouvel édito scientifique et afin d'assouvir votre soif de science, nous parlerons de la redécouverte d'espèces qui étaient considérées jusqu'à aujourd'hui comme officiellement éteintes. Une rudement bonne nouvelle pour la biodiversité s'est mise à mal au cours des 150 dernières années. Alors bien évidemment, nous ne parlerons pas d'espèces disparues il y a des milliers d'années ou quelques centaines d'années même, mais plutôt d'espèces dont nous avions perdu la trace sur plusieurs décennies au point de pouvoir les considérer comme éteintes. Notez qu'il s'agit quasiment à chaque fois d'espèces endémiques, rares ou déjà en danger d'extinction.
Et du coup, Maxime, de quelle espèce parlons-nous ce soir ?
Alors Rémi, nous parlons par exemple de la récente redécouverte de Megachilée pluto, l'abeille géante de Wallace, une espèce d'abeille noire de très grande taille puisqu'elle peut mesurer jusqu'à 4 fois la taille de nos petites abeilles à miel. Un spécimen a été observé en Indonésie par une équipe du Global Wildlife Conservation en fin février 2019, donc tout récemment. Aucun individu de cette espèce n'avait été observé depuis près de 40 ans. L'histoire de cette abeille est typique de ces cas de redécouverte. Ainsi, découverte en 1858 par le naturaliste Alfred Russel Wallace, contemporain de Darwin et cofondateur oublié de la théorie de l'évolution darwinienne, l'espèce avait déjà disparu des radars des scientifiques, mais également des personnes vivant sur place pendant plus de 100 ans, et considérée bien évidemment comme probablement éteinte. Pourtant, en 1981, l'entomologiste Adam Messer redécouvre des traces de vie de cette espèce sur l'archipel des Moluques du Nord, en Indonésie donc, avant que celle-ci ne s'évapore à nouveau jusqu'à aujourd'hui. Cette abeille n'est pas le seul exemple de cette bizarrerie scientifique. Ainsi, fin février 2019 également, le parc national des Galapagos annonçait la redécouverte d'un individu de l'espèce des tortues géantes, Chelonoidis fantasticus.
C'est toi qui l'as voulu. Hein.
Effectivement. Considérée elle aussi comme éteinte depuis près de 100 ans. Il en va de même pour le sarrasin du Mont Diablo, Eriogonium truncatum, en Californie, redécouverte en 2005 après près de 80 années de mystère, laissant supposer que l'espèce avait définitivement disparu. Il existe des dizaines de cas similaires à ceux-là récemment recensés chaque année.
Bon, alors du coup, comment c'est possible de redécouvrir une espèce considérée comme éteinte, puisque, a priori, il est plus censé exister, cette espèce?
Effectivement. Alors pour cela, Rémi, il faut tout d'abord comprendre ce qu'on entend par espèce éteinte, et pour ce faire, s'intéresser à la désormais très célèbre liste rouge. Mais si vous savez, cette liste établie par l'Union intergouvernementale pour la conservation de la nature, qui permet de savoir quelle espèce est menacée, dans quelle partie du monde, et par quoi? Attention, on ne considère évidemment que les espèces à l'état sauvage et dans leur milieu naturel. Donc pour savoir si une espèce est menacée, petit jeu, un bilan est établi à partir des informations recueillies sur le terrain où des scientifiques essaient de délimiter son aire géographique de répartition, compte les plantes ou animaux, donc les individus référents de population, et suivent l'évolution de ce nombre au cours d'une durée donnée, tentant de quantifier la diversité également génétique de ces populations. Des seuils précis déterminent ensuite le niveau de menace qui pèse sur une espèce, lequel est validé ensuite par un collègue expert. Il existe trois catégories principales dans la liste rouge: vulnérable, comme par exemple le bien connu ours polaire, en danger, comme le grand requin marteau, ou en danger critique, comme c'est le cas par exemple pour les deux espèces de gorilles vivant en Afrique. Catégorie juste avant évidemment l'extinction, où était encore catégorisée il y a peu notre chère abeille géante. De nombreuses données de la bibliographie scientifique sont mises à contribution, mais ces données peuvent venir également de chercheurs ou bien de la science participative. Ces informations collectées par des citoyens sont ensuite validées par une institution scientifique, ce qui permet ensuite de les utiliser de façon fiable, a priori du moins. Compter les insectes ou les oiseaux dans votre jardin peut ainsi aider à suivre l'évolution des espèces. Vous l'aurez compris, il s'agit qu'une espèce soit déjà endémique, rare ou dans son cycle, ou que son cycle de vie soit potentiellement très mal connu pour que celle-ci puisse aisément échapper aux yeux attentifs et experts pendant plusieurs décennies.
Quelles sont donc les conséquences de ces découvertes et puis les informations à en tirer, Maxime?
Eh bien, si on en croit les propos de Robin Moore, agent de la agent de conservation au Conservatoire évidemment, général de la vie sauvage et de l'Alliance pour la survie des amphibiens, à propos de la redécouverte évidemment de deux espèces d'amphibiens. Donc, trouver des espèces disparues est toujours excitant, mais redécouvrir des espèces disparues dans une forêt que vous avez protégée est juste incroyable. Et prouve l'importance des projets comme ces derniers qui préviennent l'extinction des espèces en danger. Vous l'aurez compris, c'est une question de conservation et de protection de la biodiversité. À l'heure où la liste rouge des espèces menacées s'allonge d'année en année et semble démontrer l'inefficacité des politiques de conservation, avec par exemple en 2016 près de 24 000 espèces menacées d'extinction sur les 83 000 espèces évaluées, soit quasiment une espèce sur trois, ces découvertes ou redécouvertes sont de véritables soulagements et sont porteuses d'un message d'espoir et de succès très encourageant. Pour une fois qu'être conservateur n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'arrêtons de nous voyer la face. Si ces cas-là restent rares, et la solution pour sauver la biodiversité ne résidant pas dans les biotechniques de clonage ou de croisement douteux, c'est bel et bien dans une modification de notre rapport à la nature et à notre environnement que se trouve la solution de la protection de la biodiversité.
Merci beaucoup Maxime pour cet édito scientifique. Et à 21h05 sur Transistor, on passe à la culture. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa.
Bonsoir Rémi.
Les j'ai décidé de quitter mon siège, le numéro 7, qui fut occupé par la première femme élue à l'Académie, Selma Lagerlöf. Pour moi, ce fut un honneur d'y siéger. C'est sur ces paroles que Sarah Danius, membre de l'Académie suédoise, a rendu son fauteuil d'académicienne mardi dernier, mettant un point final à la saga rocambolesque du Nobel de littérature 2018. Point final ou peut-être virgule, on ne sait pas encore trop, puisqu'avec l'Académie suédoise, tout est possible tant les académiciens et académiciennes font preuve de virtuosité et de créativité pour ponctuer l'année littéraire de touches, ou plutôt de tâches plus ou moins subtiles, de sexisme, d'élitisme et de népotisme. Tâches se multipliant depuis 2 ans et laissant une impression douteuse sur un tableau qui s'assombrit progressivement. J'avais déjà évoqué avec toi en septembre cette série de scandales qui avait secoué l'Académie suédoise, Sarah, mais à la métaphore picturale, nous préférâmes celle plus maritime du naufrage du Titanic. Et comme depuis de l'eau a coulé sous les ponts, je me permets de rappeler les grandes lignes de l'affaire.
Et tu fais bien.
Sur un fond de mouvement MeToo, Jean-Claude Arnault, le mari de la poétesse académicienne Katarina Frostenson, celui que l'on désignait par le vocable mystérieux d'éminence grise du Nobel, avait gagné le surnom, moins poétique mais tout aussi évocateur, de Weinstein suédois, lorsqu'en décembre 2017, il avait été accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles. Sarah Danius, alors secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, avait réagi en demandant une enquête interne, enquête à laquelle s'était opposée la majorité des académiciens, en limogeant en prime leur secrétaire perpétuelle. On est alors en droit de s'interroger sur la terminologie. Trois immortels... Juste, est-ce que quelqu'un a une connaissance en nom suédois dans le studio? Parce que bon, ça va être un carnage. Donc trois immortels, Klas Östergren, Gjell Espark et Peter Englund... Ça passe. Avait alors claqué la porte, dénonçant une trahison de la devise de l'Académie « talent et goût ». Et ils n'avaient pas été les seuls à protester, puisque des manifestations avaient éclaté à Stockholm pour dénoncer le sexisme de cette Académie réfractaire se complaisant dans une culture du silence. Ajouté au scandale et au limogeage de Sarah Danius, ses démissions avaient plongé l'institution dans la tourmente et la remise du Nobel de littérature de 2018 avait été reportée à 2019. Et mardi donc, le 26 février 2019, Sarah Danius a abandonné son siège d'académicienne, rendu son tablier, après avoir tenté d'insuffler un vent de nouveauté sur la scène littéraire, en remettant en 2015 le Nobel à la Biélorusse Svetlana Alexievitch, puis à Bob Dylan en 2016. C'est donc un chapitre qui se clôt dans cette série à rebondissements qu'est depuis l'année dernière le Nobel de littérature. Mais heureusement, un autre chapitre, plus heureux, s'est ouvert la semaine dernière dans le monde de l'édition. Les talents hauts se dressent en effet pour prendre la défense des femmes plumées par le patriarcat, ces femmes écrivaines auxquelles on dénie parfois encore même jusqu'au féminin de leur profession, héritage d'un processus historique qui a tout bonnement effacé les formes féminines de bon nombre de titres et de noms de métiers, mais je m'égare. Ces écrivaines, disais-je, auxquelles on a dénié toute capacité à écrire une littérature de qualité, quand on ne les empêchait pas, tout court, de prendre la plume. Bref, ces écrivaines qui ont tant de mal à se frayer une place dans les programmes scolaires et à rentrer au palmarès des écrivains dits classiques. Eh bien, Laurence Faron, fondatrice et directrice des éditions jeunesse Talents Hauts, a décidé de les mettre à l'honneur et de leur redonner un peu de visibilité dans sa nouvelle collection à destination des adolescents et adolescentes, joliment et justement nommée Les Plumées. Parmi ces plumées, donc, il y a Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais Disney lui a emprunté, par exemple, l'histoire de La Belle et la Bête. Ou encore, on trouve Judith Gauthier. Là, le nom vous dit peut-être quelque chose, puisque Judith, premier membre féminin de l'Académie Goncourt, est la fille aujourd'hui peu connue du célèbre poète Théophile Gauthier. Elle nous rappelle alors une autre Judith, la sœur de Shakespeare, inventée par Virginia Woolf dans Un lieu à soi, qui, tout aussi talentueuse que son frère, n'aurait jamais pu réussir aussi bien que lui, parce qu'elle était une femme, tout simplement. Bref, cette heureuse initiative éditoriale montre que l'espace littéraire est bien assez vaste et riche de potentialités pour accueillir tout le monde, pour qu'homme, femme ou non-binaire, chacun y ait enfin un lieu à soi. Et pour continuer sur une veine féminine, parlons photo. Sarah, ne m'avais-tu pas annoncé avec enthousiasme la perspective d'un verre gratuit, pardon, d'un vernissage début mars?
Absolutamente, signora. Mardi 5 mars à 18h30, soyez nombreux au vernissage de l'expo photo L'Homme Nouveau à la Galerie Domus, près du parc de la Tête d'Or. Une petite balade sympa en vue, non? D'autant que l'artiste sera présente. Claudine Doury, cependant, s'éloigne un peu de notre sujet féminin. Et oui, comme il est dit dans le titre, l'homme nouveau s'intéresse à des portraits d'hommes en devenir. À partir de quand devient-on un homme adulte, se demande la photographe. Son œil vagabond, a donc erré dans les rues de Saint-Pétersbourg, cette ville si fascinante dont nous avons forcément lu le nom quelque part, sur une carte postale de grands-parents ou peut-être entre deux pages de Crimes et Châtiments. La Russie, Claudine Doury la connaît bien. Mais les sujets masculins, c'est assez nouveau pour elle, et Léa, je vais te laisser lire cette citation que vous pouvez du reste retrouver en intégralité sur le site de la galerie.
J'ai jusqu'à présent beaucoup photographié les jeunes filles, convoquant à travers elles mon enfance et mon adolescence. Dans ces travaux, les rares présences masculines y faisaient toujours office de figurant. Je veux explorer, maintenant, l'identité masculine, dans une période de transition, à la fin de l'adolescence. Quand et comment le garçon devient-il homme ? Quels sont les signes de cette transformation ? En quoi est-elle différente des générations précédentes ? En questionnant l'identité masculine au passage de l'âge adulte, j'aborderai les notions de genre et d'altérité à l'entrée du XXIe siècle.
Voilà, et si homme nouveau il y a, c'est aussi en regard de cette nouvelle génération russe, née au moment de l'effondrement soviétique, ou peu après. Les portraits sont donc ceux d'une jeune génération, aux traits à venir, et pourtant déjà marquée par un monde inhabitable. Enfin, ça c'est moi qui l'ajoute, puisque l'artiste y voit plutôt des visages résolument modernes et tournés vers ce monde, connectés et maîtres de ses rouages actuels. Bref, disons que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de saisir un verre gratuit en regardant d'un œil fin de jolies photos, c'est aussi de réfléchir à la manière dont ont pu évoluer des représentations, notamment en regard de la virilité, des codes traditionnels sur le genre, etc., dans une Russie au fort relent de conservatisme.
Et pour ces lieux que l'expo aura fort intéressé, sachez qu'elle se poursuivra le 4 avril par un café photo entre 12h45 et 13h45, toujours en présence de Clotilde Doury, lors du Festival des Arts du Campus.
La première semaine des giboulées aura de quoi vous réjouir et vous occuper, car si le 5 mars vous siroterez des photos, deux jours plus tard vous boirez les paroles de Nicole Brenet, programmatrice à la Cinémathèque française et spécialiste des cinémas d'avant-garde.
En effet, le rendez-vous commence le 7 mars à 18h en Dutilleux, donc pas besoin de trop bouger, cette fois-ci c'est comme à la maison. Nicole Brenet est censée y parler de son parcours et de ses engagements professionnels.
Oui, et cette rencontre se poursuivra sur les fauteuils de la Cantor, où aura lieu une projection au titre éloquent, cinéma politique contemporain et invention formelle. Pour celles que les images intéressent plus que le verbiage, rendez-vous donc directement dans notre théâtre des profondeurs à 20h. Et en parlant de la Cinémathèque, j'aimerais justement vous annoncer un énième événement coolissime qui aura lieu à la mi-mars. De quoi vous consoler d'un temps lunatique s'il en est.
Du 13 au 17 mars, vous aurez la chance dingue de rencontrer Nicolas Winding Refn, Jerzy Skolimowski, je suis gâtée sur les noms aujourd'hui, et Garrett Brown, l'inventeur du Steadicam. Carte blanche est donnée à ce dernier avec 7 films au programme, tandis que des films des deux réalisateurs rythmeront vos journées. Certaines séances seront présentées par leurs soins, ou suivi d'une discussion avec eux, donc choisissez bien vos TGV.
Et oui, absolument. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, je recommande vivement d'aller voir par exemple Deep End. Des piscines, des jeunes, des couleurs, c'est sympa. Enfin, à vous de voir. Sachez qu'en ces 5 jours de festival, pour lequel vous pouvez dès maintenant vous procurer une carte à tarif préférentiel, 100 films seront projetés dans différents cinémas de la capitale. Cinémathèque, Méliès, etc. Tous s'y mettent. De nombreuses réalisations défileront sous vos yeux. Et si vous en avez marre de la Pologne, vous pouvez jeter un œil sur les comédies hilarantes de Lubitsch. Mal du pays, le sublime Clémenti sera là sous sa version cinéaste. Et j'en nommais bien sûr avec des restaurations récentes de Dziga Vertov, James Ivory, Fritz Lang, Ibrahim Molestan, etc.
Bref, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir en mars.
Oui, et surtout de vous éclater les pupilles. Voilà, et pour clore ce journal de la culture, nous tenions à vous rappeler l'événement du week-end qui est Ombre de Jelinek. Je vous conseille vraiment d'aller voir une vidéo sur YouTube sur la chaîne de FIF, Festival International des Écrits de Femmes. Et sachez qu'en Cantor, donc, vous pourrez avoir une mise en scène de cette autrice autrichienne très très intéressante dont on vous parle beaucoup mieux sur YouTube avec Sarah Nelson qu'ici. Et du coup, on se dit au revoir pour un week-end ensoleillé.
Et à 21h, passé de 16 minutes sur Transistor, vous écoutez toujours le journal radiophonique amplifié et on vous retrouve Maëlle et Benoît. Rebonsoir.
Bonsoir Rémi.
C'est l'heure de votre chronique musicienne. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Une petite blague d'abord.
Maëlle, dis-moi, quand on frappe chez toi, comment sais-tu que c'est un batteur?
Parce que ça accélère.
Ou je vais dire des trucs simples.
La régie a rien compris à la blague et moi non plus.
Un batteur, ça accélère toujours.
Toujours, quoi qu'il arrive. Mon nom, je voulais qu'il rappelle l'horreur et le cinéma d'exploitation, façon années 80. Predator, Terminator, Annihilator, Vindicator, plein de films de cette époque finissent comme ça. J'ai cherché pendant genre 10 minutes. J'étais en train de manger des céréales et là, putain, un que personne n'avait jamais pris. Ces mots, c'est ceux de James Kent, aka Perturbator, un jeune parisien de 24 ans, fils du journaliste de légende Nick Kent, ancien retraité, après une longue carrière pour NME, la BBC, les Un Rock ou encore Rock and Folk. Entre Electro et Synthwave, le Brougre s'est fait connaître par son style endiablé emprunté à la crème des années 80, déterrant tour à tour le meilleur de Tangerine Dreams, de Vangelis, de John Carpenter, avec lequel il a joué à Las Vegas pour Halloween, excusez du peu. Il a signé il y a peu de temps chez le label métallisant Blood Music. L'aventure a décollé pour Mike lors de sa collaboration à la série de jeux indépendants Hotline Miami pour laquelle il a signé une partie de la BO. Après avoir retourné les influences 80s et un dernier passage sur Hotline Miami 2 en 2015, son dernier projet s'éloigne peu à peu de la période pour se projeter de plus en plus vers des influences cyberpunk, à commencer par le cinéma d'animation japonais des années 90, mêlant comme il se doit Akira, Ghost in the Shell ou encore Running Man. Cette fois, dites adieu au néon rose fluo.
Adieu.
Merci Maë. J'en étais où? Donc du coup, oui, dites adieu au néon. Ne redis pas adieu, s'il te plaît. Non mais vous allez me perturber encore là, c'est fatigant. Donc dites adieu au néon rose fluo et accueillez une ambiance très apocalyptique. Perturbator plonge vers la fin du monde, la pollution, le mazout au Roland, des bas-fonds de LA façon Blade Runner. Comptant à son actif de nombreux concerts autour du globe et près de 10 000 spectateurs lors de l'édition 2017 du Hellfest, on peut dire que Perturbator n'en est pas à son coup d'essai. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que le bonhomme a prévu une halte au CCO de Villeurbanne demain. Une structure vraiment chouette à la salle de spectacle très intimiste. L'équipe organisatrice y est vraiment top et sait garder une programmation très éclectique qui sait ravir d'autres fans que ceux de la culture années 80. Mais bon, comme tout le monde le sait, Perturbator c'est quand même une petite bombe, je vous encourage à y aller vous trémousser sur des rythmes endiablés et ces néons qu'on ne voit plus assez.
Et je continue avec l'électro parce que ce soir on est branché et vous parle d'un artiste dont le nom vaut 14 points au Scrabble.
Oliiforme ?
Et non, W-O-R-A-K-L-S, Workalis.
Je l'ai déjà vu mieux.
Vu peut-être, mais sans doute pas écouté, Benoît. Ce non. Jeune parisien, cofondateur du label de musique électronique Hungry Music, est un auteur, compositeur et interprète.
Tu vas aussi nous dire qu'il s'appelle Kevin Rodriguez et qu'il fait ses études au lycée André Bouloche à Livry-Gargan.
Je vois qu'on a lu la même page Wikipédia.
Ah, toujours.
Mais plus sérieusement, Workalis, c'est de la musique Musique électro qui tend parfois vers le minimal et surtout organique parce qu'il aime utiliser des instruments classiques pour donner à ses compositions une teinte plus mélodique. Et c'est justement le concept de son premier album solo, qu'on attend depuis plus de 10 ans maintenant, Work Alice Orchestra, composé pour être joué avec un orchestre philharmonique. Pour lancer cet album, Work Alice a commencé une tournée accompagnée de l'orchestre de la Philharmonie Provence-Méditerranée et sera ce samedi soir au Transborder. Comme vous avez pu l'entendre, c'est puissant, je dirais même plus, très puissant. Électro plus instrument classique à la sauce Work Alice, ça donne une touche épique et cinématographique qui, ma foi, est après tout une recette qui fonctionne bien. Work Alice Orchestra exploite la musique électronique comme on l'aime, c'est-à-dire en jouant, en exploitant son potentiel et l'immense liberté qu'elle offre. C'est une musique de foule, si j'ose dire, de celles qui font briller les briquets et battre les cœurs dans les poitrines, qui donne l'impression à la fosse de tanguer à l'unisson dans un monde immense et grave.
On la perd.
Alors samedi soir, je serai dans cette foule, dans la sueur et la chaleur des corps, les yeux rivés sur le ciel qui sera celui de la salle, et j'aurai sans doute l'impression d'être jeune et vivante, ce que les rayonnages de la BU me font rarement ressentir.
Une citation de Work Alice pour finir peut-être ?
Mélanger deux mondes, les émotions du classique avec la liberté et l'énergie de l'électronique, je pensais que c'était une fin en soi, mais en vrai, ce n'était qu'un début.
Giornalo radiofonico dell'amplificazione.
Sul transistor.
Et on passe de l'électro aux ondes courtes avec toi, Rémi.
Oui, on redescend un petit peu sur Terre après ces quelques instants planants et je reviens sur une actualité que vous avez peut-être vu passer le 2 février dernier à l'occasion du festival Longueur d'onde, ça dit quelque chose, mais... Et d'une table ronde dédiée au financement de la création radiophonique, la SCAM lançait un appel à la mise en place d'un fonds de soutien à la création sonore et radiophonique. Alors cet appel faisait suite à une saisine du ministère de la Culture à l'automne, dans un contexte où les acteurs de la création radio se multiplient, sans que le financement n'évolue, comme nous explique Hervé Rony, directeur général de la SCAM.
Pourquoi effectivement cette demande ? Parce que, pour répondre à votre question, il n'y a pas de dispositif de soutien à la création radiophonique en France. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disposition particulière. Il y a un fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc il y a plusieurs centaines de radioassociatives en France qui reçoivent ces sommes, mais c'est plus des sommes qui vont à la structure, hein, à la possibilité de gérer en fait une radio associative, dès lors que ces radioassociatives n'ont pas majoritairement accès à des recettes publicitaires. Pour autant, sur la création radiophonique stricto sensu, il n'y a pas de fonds dédié, il n'y a pas un équivalent de ce que j'ai connu même dans la musique avec le fonds pour la création musicale, le FCM, il n'y a pas Il y a encore moins, évidemment, même si les sommes ont rien à voir, mais il n'y a pas de CNC de la musique, de la radio, etc. Donc globalement, sur la programmation de documentaires, de reportages, de talk-shows, de fiction, etc., on n'a pas de dispositif. On constate que c'est un secteur qui a très peu de moyens économiques. Donc il y a, comme je vous disais, l'appel d'air du podcast. Il y a l'idée que on pourrait améliorer la qualité de la programmation radiophonique des radios associatives. Mais France Culture est aussi intéressée et souhaite développer un partenariat avec ce fonds. En fait, c'est un partenariat à trois. Il y aurait ce fonds, donc s'il existe, les diffuseurs et les auteurs. Et c'est voilà. Et donc c'est ce partenariat qui doit bien fonctionner. Il faut que les auteurs aient la capacité d'avoir des aides à l'écriture. Alors, nous à l'ASCAM, on en a déjà. Ça s'appelle Brouillon d'un rêve, mais c'est quand même relativement petit en termes de volume financier. Mais il y en a pas d'autres. Hein. On est les seuls à en faire. Alors la SACD, il y en a pour la fiction, mais encore une fois, c'est très limité. Mais en tout cas, c'est de développer la possibilité pour les auteurs de demander des aides à l'écriture, mais c'est aussi aux diffuseurs de demander des aides.
Voilà, et c'est la diversification des acteurs, donc, mais aussi des formes radiophoniques, qui est donc au cœur de ce projet, comme le détaille encore Hervé Rony.
Alors évidemment, pour toutes les radios, mais on pense beaucoup aux radios associatives qui font un gros travail avec la SCAM. Nous, ici, on représente le documentaire, le reportage, grand reportage, et on se rend compte que beaucoup de radios associatives essayent de faire un vrai travail de recherche radiophonique, de création originale. Il y a évidemment aussi Radio France, il y a Arte Radio, il y a Demain Matin, et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on parle de radio, mais ne nous trompons pas, notre dispositif il vise à aider la création sonore. Donc ça peut être Demain Matin, et ça c'est très important, les podcasts natifs qui se développent de façon aujourd'hui, enfin qui commencent à se développer aujourd'hui. Il y a deux axes dans le travail qu'on mène sur un fonds de création. C'est un axe sur la production proprement dite en général, la production de programmes radiophoniques, et puis il y a l'innovation. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait des radios qui soient partenaires de ce fonds, plus pour la production en général, parce qu'elle manque globalement de moyens, et puis une aide à l'innovation peut-être plus pointue sur de nouvelles écritures, sur des écritures web natives, ce qui intéresse par exemple beaucoup France Culture, qui est à la recherche aujourd'hui d'un développement très substantiel de la création sur le web. Donc ils ont commencé en fiction, ils vont le faire en documentaire. Donc là, il y a un aspect nouvelles écritures qui est un peu différente de simplement aider à la production.
Dans le document de 20 pages joint à l'appel, que vous trouverez aussi joint à cette chronique sur le site de Transistor, la SCAM propose donc un fonds de soutien, mais aussi d'autres actions de diffusion de la création radiophonique, comme la mise en place d'un label radio de création et aussi d'espaces de collaboration renforcés entre les diffuseurs, qu'ils soient associatifs, publics ou privés, autant de propositions qui sont désormais sur la table du ministre de la Culture.
Dans cette demande que nous faisons, dans ce document que vous avez mentionné, qui résume notre proposition, on se garde bien, et on le fait exprès, de donner des montants ou des mécanismes juridiques de soutien. Ce qu'on dit au ministère, c'est si vous trouvez que l'idée est bonne, à vous ensuite de désigner, parce que c'est comme ça qu'on veut le faire, de désigner quelqu'un qui ensuite expliquera comment on peut monter ce système. Il s'agit pas évidemment d'avoir un fonds forcément, et c'est l'avantage de la radio heureusement, très consommateur de moyens financiers. Et je pense que Franck Rister, pour pas le nommer, a une carte à jouer pour créer quelque chose d'original qui n'a pas été fait encore.
Voilà, et vous pourrez donc retrouver plus de détails sur cette proposition de la SCAM sur la page de la chronique sur transistor.fr.
Vous avez écouté le journal radiophonique amplifié de Transistor. Il y avait au creux de votre oreille cette semaine Maë Burla, Maxime Seguin, Benoît Auclair, Marie Douniac, Julien Marcou, Léa Busga, Sarah Andria et en régie bien sûr Félix Barancy. Nous remercions également UNS Média pour son soutien technique. Le journal radiophonique amplifié, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda. Et on se retrouve le 14 mars pour la prochaine diffusion.